François Mourad, après cette première partie de ce sixième Radio Barque, on a appris donc, alors d'une part, vous êtes conseiller départemental, mais ça c'est depuis déjà un peu plus d'un an. Vous prenez petit à petit des responsabilités importantes dans le parti Horizon au niveau audois, au niveau départemental. Alors Horizon, c'est un parti, donc vous l'avez dit, qui a été créé récemment par Édouard Philippe, qui se situe, j'imagine, dans la mouvance centre-droit dont vous vous réclamez, François Mourad. Mm-hmm. Essayons quand même de savoir un petit peu plus quelle serait ou quelle est la plateforme de base de ce parti.
Ben, disons que l'éclatement politique qu'a provoqué Emmanuel Macron, mais pas Emmanuel Macron personnellement.
Les circonstances.
Les circonstances et le moment où lui est arrivé, ben, il y a un ancrage gauche-droite qui a en partie volé en éclat. C'est le fameux « en même temps ». Et le « en même temps » d'Emmanuel Macron, il a mis en difficulté ce que l'on connaissait du paysage politique traditionnel français avec le Parti Socialiste d'un côté, le RPR de l'autre, ou l'UMP, ou les Républicains, on l'appelle comme on veut, et puis, de temps en temps, le Front National ou le Parti Communiste à l'époque, qui faisait, au gré de l'humeur des populations et des circonstances nationales ou internationales, des résultats qui pouvaient surprendre. Enfin, on restait quand même dans une sorte de d'ambivalence gauche-droite. Ça a beaucoup éclaté, effectivement, et puis maintenant, il y a une restructuration qui est en train de se faire, et elle a l'air assez claire en France, avec un pôle d'extrême droite d'un côté, structuré autour du Rassemblement national et de ses alliés potentiels. Je pense à Éric Zemmour, par exemple. Vous avez un pôle de centre, d'extrême gauche de l'autre côté, qui est mené par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, le Parti communiste en partie. Et puis vous avez ensuite une reconstruction qui est en train de s'opérer avec une droite et un centre droit modéré, travailleur, pas populiste, qui propose des choses concrètes, qui est en gestion, des élus locaux, des maires, bon. Et puis un pôle de gauche et de centre-gauche, idem, modéré, travailleur. Je crois que ces deux pôles centraux peuvent se rejoindre dans le cadre de gestion publique, et la structuration de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite de chaque côté est en train de se faire, finalement, d'elle-même, et parfois, d'ailleurs, se retrouve elle aussi.
Oui.
Vous regardez le programme du Front National et le programme de l'FI.
Mais ce qui est surprenant, c'est la façon dont la France est partie vers les extrêmes.
Alors, c'est surprenant.
C'est surprenant, mais pour vous, c'est la conséquence du macronisme.
C'est la conséquence, en tout cas, d'un éclatement, effectivement, d'un barrage qui a sauté avec ces deux grandes forces de droite et de gauche, mais qui sont en train de se reconstituer. Et si je vous faisais une petite confidence, si je vous la fais, je crois que le pôle de droite et de centre sera piloté à terme par Édouard Philippe. Et je crois d'ailleurs que le pôle de centre de gauche sera piloté par Anne Delga. C'est mon avis. C'est mon avis. Mme Delga avait été très claire sur les alliances.
En tout cas, elle s'y emploie.
Elle s'y emploie. Elle avait été claire sur les alliances contre nature avec la NUPES. On va voir le congrès, l'issue du congrès des Républicains qui doit élire un nouveau président. Imaginons qu'Éric Ciotti soit élu à la présidence. Éric Ciotti a dit lors de la campagne d'élection présidentielle, moi, vous savez, si au second tour j'ai un bulletin en face de moi Macron et un bulletin en face de moi Zemmour, je voterai pour Éric Zemmour. Ça va permettre de clarifier un certain nombre de choses.
Pour employer un euphémisme, il ne se positionne pas au centre.
Il ne se positionne pas au centre. C'est la raison pour laquelle, entre autres, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a démissionné des Républicains. C'était le cas du maire d'Angoulême. Édouard Philippe était membre fondateur des Républicains, tout comme Valérie Pécresse, tout comme Xavier Bertrand. Quand ils sont partis pour la simple et bonne raison de ce qu'ils ont théorisé comme les droites inconsolables et irréconciliables. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y avait un mouvement droitier de ce parti-là. Bon, aujourd'hui, les choses sont en train d'être au moins très claires. Si Éric Ciotti demain est président des Républicains, eh bien, vous aurez les personnes qui vont suivre ce mouvement-là seront potentiellement Zemmour compatibles et donc potentiellement Le Pen compatibles. Et nous verrons ce que font les modérés républicains. Est-ce que Horizon sera une terre d'accueil ? Je le souhaite.
Oui. Et la stratégie pour le moment, parce que on a vu récemment Horizon parfois ne pas voter entièrement en suivant Macron, enfin en suivant, disons, Renaissance.
Le leitmotiv d'Édouard Philippe, il est très clair, et c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Loyaux, mais libres. Alors vous allez dire, c'est une sorte d'en même temps aussi.
Oui, aussi.
Mais loyal, oui. Oui, le meilleur candidat, finalement, de centre droit à l'élection présidentielle, c'était Emmanuel Macron. C'était Emmanuel Macron. Donc il était évident qu'il valait mieux suivre Emmanuel Macron. Mais par contre, l'accompagner en proposant, en particulier sur des dossiers sensibles comme celui de la retraite, l'accompagnement aux collectivités locales. C'est pour ça que le groupe Horizon à l'Assemblée nationale, contre l'avis de la majorité, a voté une aide compensatoire pour les départements qui assument le surplus du RSA, par exemple. Hein. Donc c'est loyaux, on est loyaux à la politique générale, mais on est libre aussi de proposer, et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, il faut toujours, en amitié, en amour, il faut toujours, à un moment donné, casser la routine, sinon on s'habitue, les habitudes, elles sont parfois mauvaises.
Ouais. On avait cru un instant, avant les élections présidentielles, que justement Édouard Philippe allait se présenter à ce moment-là et peut-être donc contre Macron, ce qui n'a pas été le cas, mais il a choisi de constituer un parti qu'il appelle Horizon. C'est pas un mot qui a été choisi au hasard, j'imagine. Cet horizon, on peut imaginer que c'est justement la fin du prochain mandat présidentiel pour Macron. Mais peut-être aussi un espoir et une ambition bien affichée pour Édouard Philippe.
De toute façon, c'est constitutionnel. Le président de la République ayant fait deux mandats ne pourra pas se représenter. Voilà. Bon, il faudra bien une succession. Moi, j'ai aucun mal et aucun problème à parler de succession. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Oui, il faudra que quelqu'un d'autre soit élu à la présidence de la République. Des gens comme moi ne souhaitent absolument pas que Marine Le Pen accède à la présidence de la République. Une partie de modérés trouve que Édouard Philippe est un garçon extrêmement ferme sur les questions régaliennes, mais qu'il est aussi quelqu'un de visionnaire, qu'il donne une image de la France qu'on a envie de retrouver, c'est-à-dire une image d'une France qui est apaisée, une France un peu à la Chirac, où les choses allaient plutôt bien, voilà, plutôt bien, avec un certain nombre de défauts, mais allaient plutôt bien. Je pense que la France n'a jamais aimé le chaos. Elle aime la stabilité, la France. Aujourd'hui, regardez le spectacle qu'on a à l'Assemblée nationale. Bon, c'est à la hauteur du député de la première circonscription de l'Aude. Effectivement, j'ai pas pu partir à l'élection. Tant mieux pour lui. C'était la seule et unique chance qu'il a eue de gagner cette élection. On verra si une dissolution se présente. Je l'attends avec grande impatience. Mais qu'est-ce qu'on a, par exemple, ici, avec le Front National ou les agitateurs de l'extrême gauche? Rien, concrètement. Regardez, le Front National a été abattu campagne sur le pouvoir d'achat et la sécurité. Mais qui a augmenté les capacités de pouvoir d'achat des Français avec le bouclier tarifaire? C'est la majorité.
Ça n'est pas l'opposition, par définition.
Qui obtient 8500 postes, c'est Beauvau, c'est Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Barthès, aujourd'hui? Ben, il fait pas grand-chose sur le territoire. Qu'est-ce que font les agitateurs de LFI? Ben, pas grand-chose. Que font les écologistes, là, les écolos? Mais écologistes, c'est pas un parti politique. Écologistes, c'est les gestes qu'on doit s'appliquer au quotidien. C'est une prise de conscience générale qu'on doit avoir. Alors, dans ce paysage-là, qui me semble très... tumultueux, très tumultueux, pas très lisible pour la population. Ah ben, la population a envoyé un message. On en a un peu marre. On trouve que vous n'êtes pas assez réactifs. Vos prises de position, elles nous intéressent, mais elles ne changent pas vraiment notre quotidien. Message entendu, mais regardons quand même la réalité en face. Alors, ceux qui ont été élus ne font rien, n'ont rien fait et ne font rien jusqu'alors.
Bon, on verra la suite, effectivement. Mais passons de la politique nationale à la politique locale, ce qui n'est pas incompatible, contrairement à ce que certains pourraient penser. Bon, vous-même, vous avez travaillé dans le cabinet du maire
de
Carcassonne pendant pas mal d'années, donc, ce qui vous a, d'une part, appris, j'imagine, beaucoup de choses.
Ah oui.
Et puis donné peut-être certaines envies, certaines ambitions. Est-ce que la mairie de Carcassonne, François Mourad, ça, à terme, vous intéresse?
Là aussi, c'est pas un gros mot d'en parler. Gérard Lara aura fait deux mandats successifs. Il lui appartient ou pas de se représenter, ça c'est... je ne veux pas répondre à sa place. Ce qui est certain, c'est que nous, on fait partie d'une formation politique, Horizon, qui a besoin, comme toute formation politique, notre objectif à nous, c'est de travailler, préparer des élections, y présenter de bons éléments... et emporter ces élections pour amener nos idées dans les collectivités. La collectivité de Carcassonne, bien sûr. Le groupe Horizon, c'est 200 militants à jour de leur cotisation. Vous imaginez, 200 militants à Carcassonne. On a un groupe de travail là.
Oui, c'est déjà une force importante.
On a 6 toubibs, 7 toubibs même, bon, des cadres de la Sécu, bon, qui sont en train de bosser sur les déserts médicaux, on peut dire qu'ils sont plus ou moins qualifiés, en tout cas, moi je suis profane à la matière, eux ne le sont pas, qui sont en train de nous réaliser un travail remarquable sur comment on fait à Carcassonne pour avoir des toubibs, dans des difficultés terribles. On a un groupe de travail qui, aujourd'hui, essaie de trouver des solutions aussi pour le commerce, parce qu'on a une ville et qui est très belle, Carcassonne, qui a beaucoup changé, grâce à en particulier grâce à Gérard Lara et son équipe qui ont bien bossé, on a bien bossé pendant 7 ans, mais ceci étant là, il faut continuer l'action, il faut aller plus loin maintenant en termes de sécurité, il faut mettre peut-être un petit peu plus de moyens, je sais que c'est difficile, mais il faut y aller. En termes de politique touristique, on peut être un petit peu plus ambitieux, on a un château qui accueille 2,5 millions de touristes par an, le problème c'est qu'il reste moins de 2 nuits en moyenne. C'est bien qu'on a, on n'a pas les services encore suffisants. On fait beaucoup de choses qui sont très
pourtant,
bien.
Pourtant, la cité est à la fois prestigieuse et très attractive.
C'est ça. Mais la réalité...
Mais pas assez pour vous.
Ben, la réalité, c'est une moyenne de nuitées pour moi. Moi, je suis un pragmatique. Moi, j'ai été élevé par Gérard Lara. Hein. C'est moi, j'ai un type de dossier, je bosse 15 heures par jour, je raconte pas, je donne pas d'avis quand j'en ai pas, je donne pas un chiffre si je le connais pas, et je parle pas d'un dossier si je le connais pas. En l'occurrence, 1,7 ou 8 nuits en moyenne par séjour, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a une économie autour du tourisme, quel qu'il soit, peut-être le tourisme sportif, le tourisme culturel, le tourisme patrimonial, les pierres, peu importe. Mais il y a une politique générale qui doit être un peu plus ambitieuse. On a des difficultés également aussi en termes d'attractivité de l'impôt. On a un impôt foncier qui est très élevé à Carcassonne. Il est de nature, premièrement, à faire fuir une partie des personnes qui sont installées à Carcassonne, qui parfois maintenant préfèrent vivre dans des villages périphériques qui n'ont pas ce problème-là. Et puis même des investisseurs qui pourraient aussi venir, mais pour qui l'impôt foncier est une difficulté. Donc oui, on a beaucoup d'idées chez Horizon de ce qu'on pourrait faire. Et effectivement, le temps voulu, on présentera une liste pour les élections municipales. Je crois que oui, c'est clair. Oui.
Et concrètement, vous évoquiez le tourisme. Alors imaginons que François Mourad, demain, soit maire de Carcassonne. Concrètement, pouvez-vous donner un ou deux exemples de ce que vous feriez pour retenir davantage les touristes de passage?
Écoutez, moi, je suis très simple, monsieur Jules. Je connais l'histoire de ma ville. Et l'histoire de ma ville, c'est l'histoire, alors médiévale, bien sûr, de la Bastide, Saint-Louis, c'est le XIIIe siècle. Mais avant ça, on a cette cité de Carcassonne qui a eu toute une histoire autour de la médiévalité. Donc on a deux villes dans la ville qui ont une histoire extraordinaire autour de la médiévalité et un témoignage physique de ça qui est quand même assez extraordinaire avec le château. Et cette bastide aussi, qui est donc une bastide militaire, qui est absolument remarquable. Mais vous savez quoi? Déjà, commençons par créer un spectacle vivant. Alors ça se négocie avec le ministère de la Culture. C'est sûr qu'encore une fois, j'ai rien contre lui, mais c'est pas le député Barthès qui va aller faire ça. Il sait même pas de quoi on parle, ce garçon.
On verra.
Mais en attendant, dans les ministères, autour des acteurs locaux du tourisme, et de l'État, hein, qui est le gestionnaire du château. Est-ce qu'on est capable de mettre un projet médiéval en place sur l'année, un spectacle vivant, hein, autour de l'histoire de la ville, et éventuellement qu'on pourrait agrémenter de toutes ces réalités virtuelles qui existent aujourd'hui et qui pourraient aussi donner une expérience, ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience, avec une visite comme ça, guidée en 3D de Carcassonne. Ça semble pas être quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut avoir une volonté politique de le faire.
Voilà, ça c'est peut-être alors un projet Mourad, qui sait. En tout cas, on va marquer une seconde pause, François Mourad. On vous retrouve pour une troisième partie. Et on va apprendre alors à vous connaître peut-être un petit peu mieux, vous personnellement.